Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Au Qatar, une demi-finale historique ce soir entre la France et le Maroc, premier pays arabe et africain à atteindre ce stade de la compétition. Le vainqueur affrontera l'Argentine lors de la finale dimanche. Un match qui se déroulera entre deux pays amis. Certains des joueurs des deux équipes se connaissent même de longue date. Dans ce journal, entretien avec le journaliste Omar Brooksy. Le match France-Maroc doit rester une fête, il ne faut pas de débordement en France, demande Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Au Liban, la priorité ce n'est pas de savoir qui sera le prochain président, mais quel pays veulent les Libanais, c'est ce qu'a déclaré sur Radio Orient Olivier Cadic, vice-président de la commission des affaires étrangères au Sénat. Enfin, un débat sans vote sur l'immigration hier soir au Sénat. Un projet de loi sur le sujet sera présenté l'an prochain. Entretien avec le sénateur écologiste Thomas Dossu. C'est l'événement du jour, la demi-finale France-Maroc ce soir, une affiche inédite. Le Royaume est le premier pays arabe et africain à être qualifié pour une demi-finale du Mondial. Dimanche, l'une des deux équipes affrontera l'Argentine en finale. L'Argentine qui hier soir a éliminé la Croatie dans le stade El Bayt qui compte 60 000 places. On attend 45 000 supporters des Lions de l'Atlas, soit 10 fois plus que pour les Bleus. La compagnie Royal Air Maroc a affrété pas moins de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Daouha. Un match entre deux pays amis avec des joueurs qui pour certains sont des amis de longue date, comme Mbappé et Hakimi. Une rencontre riche en symboles aussi pour les franco-marocains. Le journaliste et universitaire Omar Brooksy souligne la proximité entre les deux pays. On a envie d'aller au bout de ce rêve fou, nous dit-il Omar Brooksy.
Aujourd'hui, on se dit oui, l'adversaire n'est pas facile, ce sont les champions du monde, c'est la France. Mais en même temps, c'est un pays qui est si proche. Beaucoup de joueurs marocains sont nés, ont été formés en France. Nous avons beaucoup d'aspects communs avec ce pays. Moi, j'ai l'impression que c'est un derby. Ce sont des sentiments à la fois de fierté, de joie, mais en même temps, on a envie quand même d'aller plus loin et d'aller jusqu'au bout de ce rêve fou, c'est-à-dire une finale en Coupe du Monde.
Et c'est intéressant, vous dites, moi j'ai le sentiment que c'est un derby.
Oui, parce qu'on se connaît tellement, on connaît tous les joueurs, la plupart des joueurs sont nés, ont grandi en France, ils se connaissent, ils connaissent les joueurs français. Regardez l'amitié qu'il y a entre Hakimi et Mbappé qui est la superstar. Et donc, moi j'ai l'impression que c'est le Wydad de Casablanca qui joue avec le Raja. C'est une équipe qu'on connaît bien, on voit les matchs de la France, on a vu ce qu'ils ont fait il y a 4 ans, donc c'est un pays qui nous est très proche, on est très imprégné de la culture française, les Français sont très proches du Maroc. Voilà, donc c'est un adversaire un peu intime.
Vous êtes journaliste, également professeur d'université, Omar Brooksy. Vos étudiants, c'est bien entendu l'un des sujets de conversation.
On a dû retarder les examens jusqu'au 19 parce que c'est une ambiance qui n'est pas très très favorable à l'esprit de concentration académique. Donc oui, tout le monde est dans une autre dimension. C'est l'histoire, bien sûr, avec un H majuscule qu'on est en train de vivre. Et moi, comme tout le monde, si quelqu'un m'avait dit que le Maroc allait se qualifier en demi-finale maintenant de la Coupe du Monde, je l'aurais pris pour un fou. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, nous avons connu des péripéties difficiles avec tout l'épisode Ziyech Mezraoui et l'ancien entraîneur. Gragi a ramassé l'équipe à la petite cuillère. Il en a fait une équipe légendaire, j'allais dire, avec un esprit d'équipe, de fraternité, qui rarement vécu dans un groupe. Donc personne n'y croyait. Et maintenant, on a tout ça en pleine figure, j'allais dire. Donc chapeau. Les Marocains regardent avec une admiration sans limite leur équipe, leur entraîneur.
Et c'est une première pour le Maroc, c'est une première pour le continent africain et pour le monde arabe.
Oui, c'est un mélange un peu fou où on cherche à exprimer son identité. Donc tous les paramètres sont là, les paramètres identitaires, le sentiment d'appartenance à un pays, à une région, à un continent. Ce sont des sentiments de fierté et de joie. C'est la magie du foot. C'est le sport le plus populaire, pas seulement dans le monde, mais bien sûr au Maroc, qui a plusieurs fois, comme vous le savez, déposé sa candidature pour organiser la Coupe du Monde. Et tout le monde dit maintenant que le Maroc est apte à organiser un tel événement, même si ça reste quand même un pays qui est traversé par les problèmes économiques, sociaux, etc. Mais cette Coupe du Monde a laissé de côté pour un moment tous ces problèmes pour vivre pleinement tout ce que cette Coupe du Monde nous a offert. Tout ce que ces joueurs surtout et tout ce que cet entraîneur et cette équipe et ces gens qui ont créé cette équipe. Et je pense bien évidemment à Regragui, à cet enfant qui est né en France, qui a eu une enfance difficile, qui a travaillé toute sa vie et qui a offert aux Marocains le plus beau. Voilà.
Et quoi qu'il arrive, ces Lions de l'Atlas seront regardés différemment, quel que soit le résultat ce mercredi.
Oui, mais quel que soit le résultat, c'est ce que les Marocains disent. Ce n'est pas le plus important. Maintenant, avec tout ce qu'ils ont réalisé, bien sûr, tous les Marocains veulent aller le plus loin possible. Bien sûr, gagner ou se qualifier à la finale. Mais après tout ce qu'ils ont fait, maintenant, le résultat compte un peu moins, c'est vrai, même si on veut gagner ce match. Avec tout ce qu'ils ont réalisé, avec tout ce qu'ils ont montré, avec toutes les valeurs qu'ils ont montrées, les valeurs de sacrifice, les valeurs de travail acharné, d'amour du pays, le reste compte peu.
Le journaliste Omar Brooksy au micro de François-Xavier de Calonne. Et en prévision de ce match, 10 000 policiers sont mobilisés, dont 5 000 à Paris. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, demande que cette demi-finale soit une fête et ne donne pas lieu à des débordements en France. Lui-même binational, il rappelle qu'il a grandi en France et qu'il a la double culture. Si on ne doit pas passer, on fait. Félicitera les Français, on sera derrière eux. Si on passe, je suis sûr qu'ils nous féliciteront et seront derrière nous, a ajouté Walid Regragui en disant que le meilleur gagne. Radio Orient se mobilise pour l'événement. Vous serez informés des buts en temps réel à partir de 20h sur nos antennes en FM, en DAB+, à travers la France et sur radioorient.com. En Irak, un attentat a tué un officier de l'armée et blessé deux soldats. Une bombe a explosé au passage de leur véhicule dans une zone agricole au nord de Bagdad. L'invité de Pluriel hier soir était Olivier Cadic, sénateur, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe. Il a notamment évoqué le vide présidentiel dans ce pays confronté à la plus grave crise de son histoire.
Vis-à-vis du Liban et du peuple libanais, le Sénat français a un groupe d'amitié qui est important. J'en profite pour penser à notre présidente du groupe d'amitié, la sénatrice Lavarde, qui anime ce groupe d'amitié avec beaucoup d'activités. Et donc en ce qui me concerne, c'est ce sujet, c'est la première des choses, c'est penser à toutes les souffrances endurées par le peuple libanais. C'est quand on voit, quand on entend les témoignages des gens qui n'ont plus d'électricité, qui n'arrivent plus à avoir de médicaments. Je connais quelqu'un qui m'avait conduit au Liban, qui est décédé parce qu'il n'a pas pu avoir son traitement. Je pense à eux, je pense à toutes ces personnes-là. Maintenant, il n'y a pas de problème sans solution. Et je crois que la question à laquelle doivent répondre les Libanais, c'est quel Liban veulent les Libanais. La priorité, c'est pas de savoir qui va être le président de la République, c'est comment est-ce qu'ils veulent vivre ensemble. quel va être le système qui va, je dirais, qui va sortir de tout ce chaos. Et donc, pour ma part, moi, je me rendrai à Beyrouth le mois prochain. Mon objectif, c'est de les écouter. C'est quel Liban veulent-ils ? Parce qu'on voit bien que là, pour l'instant, le système est totalement bloqué et qu'il évolue dans une direction qui est un Liban qui risque de perdre justement une partie de sa communauté et qui ferait que le Liban ne serait plus le Liban qu'on a connu. Et donc ça, on a besoin. Moi, j'ai besoin d'écouter les gens sur place pour voir comment ils analysent la situation maintenant. Mais ce qu'ils vivent est vraiment, c'est le chaos. Maintenant, on voit bien qu'ils arrivent aussi à trouver certaines solutions. Mais je pense pas que ce soit qu'on puisse retrouver le Liban tel qu'on l'a connu et tel qu'il nous a fait rêver, et tel qu'on l'a aimé. Et donc maintenant, il faut se remonter, les manches et puis voir tout ce qu'on peut faire pour les aider.
L'une des solutions pour le Liban, c'est le respect de l'état de droit, l'aide aussi aux institutions, notamment l'armée.
C'est clair, mais depuis le début, hein, moi je me suis, j'ai expliqué qu'on ne pouvait pas vivre avec deux armées hein, dans un pays. Donc il doit y avoir qu'une seule armée. Il doit y avoir un système qui repose effectivement sur l'état de droit. Ça, c'est ma conviction. C'est peut-être pas la conviction de la Chine, puisqu'on avait commencé avec eux. Moi je pense qu'effectivement ça passe par là, ça passe par la liberté d'expression, ça passe par la démocratie, ça passe par respecter des règles et donc lutter contre la corruption. Et voilà, donc c'est très bien que si on n'arrive pas à remettre de l'ordre, ce sera très très difficile, mais encore une fois, ce sont les Libanais qui ont leur destin entre les mains. Et ils doivent aussi analyser la situation, parce que si on en est là, il y a aussi un certain nombre de raisons. Donc il faut vraiment que chacun fasse le point et savoir dans quel monde veulent-ils vivre, dans quel Liban veulent-ils vivre. C'est eux qui peuvent le déterminer, personne d'autre à leur place. Et encore une fois, je vous dis, moi, j'ai pas de leçon à donner, uniquement à me mettre à disposition. Si je peux être utile, eh ben, je ferai tout ce que je peux pour les aider à avancer.
Olivier Cadic, sénateur, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, il était l'invité de Pluriel hier soir, émission disponible sur radioorient.com. Le verdict est tombé dans le procès des complices de l'assaillant de l'attentat de Nice. La Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de 2 à 18 ans de prison pour les 8 personnes qui étaient jugées. Un ressortissant tunisien au volant d'un camion bélier avait tué 86 personnes le 14 juillet 2016. Un futur projet de loi sur l'immigration au début de l'année prochaine, ce mardi soir, a été marqué par une déclaration du gouvernement sur ce sujet avant un débat sans vote au Sénat. Entretien avec Thomas Dossu, sénateur du Rhône, membre d'Europe Écologie Les Verts.
C'est un projet de loi qui, comme la plupart des ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin veut son projet de loi sur l'immigration. Et donc, c'est un projet de loi pour faire encore reculer le droit, en réalité, des personnes étrangères sur le territoire français. Pour moi, c'est un projet de loi qui fait encore reculer la valeur fraternité de la France. Pour nous, le sujet, il n'est pas de durcir ces conditions d'accueil des étrangers en France, il est plutôt de savoir comment on les intègre mieux. Et donc, Gérald Darmanin lui répond à une logique inverse. La logique de Gérald Darmanin, c'est de penser qu'il y a trop d'étrangers en France, puisqu'il l'a dit lui-même, hein, il veut plus d'obligations de quitter le territoire français et les exécuter plus vite. Donc il considère qu'il y a trop d'étrangers en France. Nous, on pense l'inverse, on pense qu'il faut accueillir, il faut mieux accueillir, il faut mieux intégrer, et ce projet de loi ne permet pas ça.
Vous dites que ce projet de loi fait reculer les droits des étrangers en France. Comment cela se traduit pour vous ?
Ça se traduit par plusieurs choses. La façon dont il veut accélérer les procédures d'obligation de quitter le territoire français, de ficher les personnes qui sont... sous la menace d'une OQTF, la façon dont il veut réduire leurs droits dans les centres de rétention administrative, tout ça, ça fait reculer le droit des étrangers. Et tout ça, pour nous, c'est extrêmement inquiétant, parce qu'on ne répond pas à une peur qui existe dans la société par ce genre de loi qui ne fait qu'attiser ce genre de logique. Et donc, pour nous, on est en train de faire reculer les valeurs fondamentales de la France, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et surtout la fraternité.
Sur les OQTF, ces obligations de quitter le territoire français qui sont peu appliquées en France, qu'est-ce que vous préconisez justement sur ce sujet ?
Nous, ce qu'on pense, c'est que les OQTF sont délivrés un peu n'importe comment. Je m'explique. Globalement, moi, j'ai visité des centres de rétention administrative, j'ai vu des situations où les personnes passaient du temps en rétention et revenaient après sur le territoire, puisque globalement, on leur avait délivré des OQTF pour des motifs qui n'étaient pas les bons. Et donc, globalement, on les distribue n'importe comment. Donc, nous, la logique de dire, à partir du moment où il y a l'OQTF, la personne doit quitter le territoire français, c'est de nier les droits de la personne. Donc, il faut mieux encadrer la façon dont on délivre ces OQTF, et il faut mieux permettre aux gens d'exercer leurs droits. Il faut accélérer tout ça, il faut des moyens dans les tribunaux, il faut des moyens pour la justice. Et donc tout ça, c'est l'inverse de ce que ce projet de loi propose.
Il faut réformer aujourd'hui la politique de l'asile en France.
Pour nous, la politique de l'asile, c'est un problème européen. Il faut que l'Europe se coordonne mieux pour accueillir les personnes étrangères, notamment parce qu'en fait, on a besoin de ces personnes-là. On a des métiers qui sont en tension, on a des métiers où on a du mal à recruter, on a des personnes qui arrivent parfois formées. Et donc, il faut pouvoir évaluer tout ça et les accueillir et leur permettre de travailler là où on a des besoins. Ce n'est pas forcément nous, la gauche ou les écologistes, qui le demandons, c'est même le MEDEF, on n'est pas forcément en face sur tout, mais il demande aussi à ce que les personnes puissent être régularisées rapidement pour pouvoir les embaucher. Donc nous, on a besoin globalement d'avoir une politique coordonnée au niveau européen sur les questions d'accueil, et puis derrière, ne pas avoir une politique inhumaine d'enfermement des étrangers.
Cette coordination européenne sur l'immigration, aujourd'hui, vous estimez qu'il y a beaucoup de travail, notamment après ce qui s'est produit concernant l'accueil des rescapés de l'Ocean Viking.
Oui, alors on a bien vu comment ça pouvait crisper aussi les différentes chancelleries européennes, mais on a bien vu aussi que quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a su tout de suite développer des systèmes rapides d'accueil et d'humanité. Et donc on voit bien que il y a parfois deux poids deux mesures et que c'est un peu triste. Nous, ce qu'on veut, c'est que la politique d'accueil, elle s'adresse à tout le monde. Et puis, en fait, c'est pas une politique angéliste, hein, c'est vraiment une politique d'intégration. Certains pays ont réussi à le faire. Hein. L'Allemagne a réussi une politique d'intégration très forte après la crise syrienne. On doit pouvoir le faire au niveau européen. On doit mettre les États autour de la table pour qu'ils mettent les moyens pour accueillir les personnes qui viennent sur le territoire européen. En réalité, on fait l'inverse, on militarise les frontières, on met en danger un certain nombre de personnes, on le voit avec le Ocean Viking, mais c'est pareil sur les frontières terrestres. Hein. Donc on a besoin d'arrêter cette logique-là, de surenchère sur nos frontières, on doit plutôt développer l'accueil.
Thomas Dossu, sénateur du Rhône, membre d'Europe Écologie Les Verts, il répondait à François-Xavier de Calonne. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h30 est Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine. Je vous retrouve à 15h pour le Flash. À 17h30, le journal sera présenté par François-Xavier de Calonne. Excellente journée à tous.